9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque semaine et surtout le plaisir aujourd'hui de recevoir Benoît Sévérac. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à Beurre FM ce dimanche matin, nous présenter Ondes algériennes. Ondes est au pluriel et c'est le titre de votre ouvrage qui est paru aux éditions La Manufacture des Livres. Parlez de vous d'abord, Benoît Sévérac, vous êtes auteur de romans, polar, de la littérature jeunesse aussi, des nouvelles, et vous avez publié de nombreux ouvrages et vous avez écrit ce livre qui porte trois noms de Sévérac: Benoît Sévérac, vous-même, Jean-Paul Sévérac, votre père, et Gilles Sévérac, votre fils. Ondes algériennes est au pluriel et il signifie, ces ondes algériennes, finalement, les ondes sont une transmission. Et c'est la transmission d'une histoire singulière, de votre histoire, Benoît Sévérac, dans l'histoire familiale. C'est pas l'histoire de la guerre d'Algérie avec cette histoire d'historien, justement, c'est l'histoire intime de votre famille que vous portez dans ce livre. Vous êtes auteur, je viens de le dire, ce livre « Ondes algériennes » au nom de Sévérac, Benoît Sévérac, Jean-Paul et Sévérac Jules. Mon insistance, elle est bien de signifier qu'il s'agit de transmission de père en fils et de fils en petit-fils. Voilà trois générations de cette même famille dans son intimité qui va voir dérouler des histoires. Un livre que j'ai lu avec beaucoup d'émotion, entre ici et là-bas, cette guerre d'Algérie qui vous a hanté, qui a évidemment hanté aussi votre père, puisqu'il en a été taiseux pendant de longues décennies. Et vous avez eu à la fois et l'envie profonde d'en savoir plus sur ce qu'avait vécu votre père dans ce que fut la guerre d'Algérie, vous l'appellerez ainsi. De mon côté, je peux la nommer guerre de libération, mais il n'est pas question de ça ce matin, mais quand même il est question de cette Algérie qui nous tient à cœur, et vous et moi et les auditeurs, auditrices, parce que elle est la force d'une histoire commune. Alors, le premier texte, il est le vôtre, il est fondamentalement d'abord ce livre de vous dans sa construction, on y reviendra, mais le premier texte que vous avez écrit est une fiction, puisque je l'ai rappelé, vous êtes auteur de nouvelles et romancier, polar noir et policier. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour justement d'écrire une fiction autour de cette guerre d'Algérie?
Bien obligé, en fait, quoi. C'est ça le problème de cette guerre d'Algérie, c'est qu'elle est tue par mon père pendant de nombreuses décennies, comme vous l'avez dit. Et c'est un objet vraiment littéraire, vraiment à part dans ma production, mais également, je pense, un peu dans le catalogue de la manufacture de livres. C'est rare que trois générations d'une même famille s'emparent de la même question. Mais bien obligé d'écrire une fiction parce que mon père a toujours refusé d'en parler. Et moi, je crois que j'ai fantasmé. Alors, ça a été un poids, hein, c'était une espèce de chape de plomb entre nous pendant très longtemps. Mon père n'en était pas conscient. Mais moi, je tournais autour de cette question depuis toujours et j'avais besoin d'inventer quelque chose. Puisqu'il ne voulait pas me donner les faits, ben, j'allais les inventer. Comme je suis écrivain, peut-être que c'est ce qui m'a rendu écrivain aussi, allez savoir. Mais quand il y a un silence ou quand il y a un trou, on le comble d'une manière ou d'une autre. Moi, j'en ai fait une histoire, une fiction. Et c'est marrant parce que c'est la fiction qui a... C'est le pouvoir des mots, ça, hein, même de la fiction. La fiction a déclenché le besoin, l'envie d'écrire de mon père, chez mon père. Et c'est 5 ans après avoir entendu ma nouvelle lue dans le cadre du Marathon des mots de Toulouse qu'il a décidé d'écrire son récit. Pour le coup, lui, c'est un récit de guerre. Ouais.
On va revenir longuement sur le récit de guerre de votre père, Jean-Paul Sévérac. Mais avant de revenir sur ce que vous avez dit tout juste, ce qui est têtu de votre père, mais de beaucoup, hein, oui, d'appeler, puisqu'il devait être appelé, ou en tout cas jeune, pendant cette guerre d'Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée, où il était en guerre, à la fois à Alger, à Hussein-Dey précisément, et en Kabylie. On dressera le récit tout à l'heure, mais peut-être sur vos interrogations à vous qui vous hantaient sur le fait que votre père ne parle pas. Vous l'avez pas bousculé, évidemment, mais petit à petit, vous avez tenté d'en savoir plus sur la guerre, ou vous attendiez que lui commence à en parler. Et c'est jamais arrivé, si ce n'est après ce que vous venez de nous dire.
C'est-à-dire que non, je dans mes souvenirs, même petit, j'essayais de savoir, parce que bon, c'est toujours un peu glamour quand on est enfant et qu'on ne connaît pas les réalités de la guerre, ni du colonialisme et de la guerre de libération. Je suis bien d'accord avec vous sur ce terme, mais quand on est petit, on voit juste que son père a fait la guerre. Il y a un côté
héroïque,
cow-boy. Enfin bon, et moi, je voulais en savoir davantage. Et lui, c'était une douleur. Il pouvait pas en parler. Et je voyais bien qu'il allait pas bien. Je voyais bien que il y avait ce alors je parle de chape de plomb entre nous, mais je pense que c'était avant tout sur ses épaules, hein. Et donc arrivé à l'âge adulte, c'est vrai, j'avais 50 ans quand j'ai publié, enfin quand cette nouvelle a été publiée et lue. C'était un moyen pour moi de déposer le fardeau, mais c'était surtout à ce moment-là que je me suis rendu compte que lui avait souffert plus que moi. J'avais souffert de ce manque d'échange là-dessus, cette espèce de malaise que je sentais chez lui. Je le prenais presque pour moi, un enfant culpabilise aussi, hein, de pas mal de choses. Bon, ça c'est de la psychanalyse à deux balles, mais n'empêche que c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand j'ai décidé de déposer ce fardeau, je crois que mon père a réalisé à ce moment-là ce que j'avais subi. Mais moi, j'ai réalisé que lui avait souffert plus que moi. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. C'est à ce moment-là qu'on devient un adulte. C'est quand on arrive à se décentrer et à plus penser à l'autre qu'à soi. Et là, je suis heureux que ça ait débouché sur ça. C'était pas mon but. L'idée, c'était de dire, justement, puisque tu ne veux pas en parler, j'invente ça, j'ai plus besoin d'en parler. Mais bon,
c'est une manière à vous de vous apaiser d'une certaine manière.
Ah, complètement. Ah oui, j'ai davantage pensé à sauver ma peau moi qu'à lui. Il arrive un moment où il faut la littérature, on se soigne soi, mais tant mieux si ça soigne les autres aussi.
Alors, comme on parle de littérature, un livre à la main, ouvert, je vous le tends, Benoît Sévrac, vous nous situez, ou en tout cas vous nous lisez un court extrait de cette fiction. Puisque c'est fictionnel,
oui, c'est une fiction.
Votre histoire est fictionnelle.
C'est ça. C'est l'histoire d'un appelé du contingent qui est libéré en 62. Il prend une piole à Marseille et il attend. Et il attend son lieutenant pour le flinguer. Je ne dévoile rien à l'histoire, hein, mais il attend pour le flinguer parce que là-bas, il lui a fait faire des horreurs, ou il a couvert des horreurs. Et donc, il attend. C'est l'histoire d'une attente comme ça. Et cet homme-là vient d'une famille bourgeoise, vient d'une famille dans laquelle il y a une certaine tradition, on va dire catholique, militaire, etc. Et beaucoup de choses sont remises en question par la guerre d'Algérie. L'homme voyait en son père un cavalier magnifique, digne des cow-boys qu'il découvrait au cinéma. Pour lui, son père n'avait rien à envier à John Wayne à cette époque. C'est en grandissant qu'on apprend que les colons blancs n'étaient pas toujours du bon côté du fusil, et les Indiens pas tous des méchants. L'homme aura peut-être un fils, lui aussi. Celui-ci le regardera-t-il avec les mêmes yeux émerveillés, alors qu'il pose pour le photographe au volant d'une Jeep américaine devant le mess, lunettes Ray-Ban vertes sur le nez et mat 49 en bandoulière? Se demandera-t-il si son père était dans le bon camp? Les héros, la patrie, l'homme ne croit plus en tout cela. Il ne croit plus en rien, pas même en Dieu. 2 ans et demi de conflit contre les indépendantistes algériens ont balayé des valeurs familiales qui s'étaient transmises de génération en génération, sans heurts, sans questionnement. Les Félagas ont gagné. Ils ont eu raison de décennies de certitude. Ils ne lui ont pas troué la peau, mais ils ont réussi à lui mettre du plomb dans la cervelle.
Merci infiniment, Benoît Sévenac, pour cette courte lecture extraite de la fiction qui est le premier texte de ce livre « Ondes algériennes » qui, je le rappelle, est un livre qui vient de paraître aux éditions La Manufacture de Livres et qui est votre histoire familiale, Benoît Sévrac, Jean-Paul Sévrac, Jules Sévrac. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous ce matin dans Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois Benoît Sévra qui nous parlons de Ondes algériennes. Ce livre est paru aux éditions La Manufacture de Livres. Nous allons parler dans une première partie avec vous, Benoît Sévra, que de cette histoire familiale intime qui est l'histoire de la guerre d'Algérie, de votre père, avec ce silence, et puis vous qui en attendez de cette guerre, qui vous témoigne de ce qui s'est passé en ce temps-là. Et chez eux, ils n'en parlaient pas, et vous avez un peu eu envie de, voilà, de, comme vous êtes auteur fiction, de faire une fiction, et vous avez parlé un peu, et lu aussi un extrait de cette fiction en première partie. On va retrouver dans la deuxième partie de livre le récit de votre père. Alors comment vient-il au récit? Vous l'avez rappelé en écoutant votre fiction. Dans quelles conditions? Comment ça a débloqué en lui tout ce silence lourd,
oui, on en
est, de quelques décennies?
On en était arrivé à un stade où moi je n'insistais plus. J'avais 50 ans. Je n'insistais plus. Je ne cherchais plus à bousculer mon père là-dessus. Après tout, j'avais accepté l'idée qu'il se taise, qu'il parte avec cette espèce de silence. Bon, mais tant pis pour nous tous, mais c'était à respecter aussi. Mais moi, mon travail d'écrivain, je me suis aperçu que quand même je tournais autour de cette faille. À travers d'autres écrits, j'étais tout le temps sur la question du silence, j'étais tout le temps sur la question de la guerre, du syndrome post-traumatique. Enfin, mes romans tournaient autour de ça. Mais ça, on fonctionne tous un peu de la même façon. On a une faille et on gratte dessus, on appuie là où ça fait mal, ou on se cache derrière cette faille. Jusqu'au jour où je me suis dit, j'ai vraiment pris conscience de ça. Je me suis dit, bon, il faut que j'écrive de façon plus directe sur la guerre d'Algérie. Et j'ai écrit cette nouvelle. Et elle a été lue dans le cadre du Marathon des mots de Toulouse en 2016, je crois, et par un comédien. J'étais présent dans la salle, j'ai introduit le projet, j'ai expliqué ce que je viens de vous expliquer, d'où ça venait et quelle urgence il y avait pour moi, quelle prise de conscience et maintenant quelle urgence j'avais à écrire ça. Et mon père était présent dans la salle. Mon fils était également présent dans la salle ce jour-là, Jules. Bon, ma fille aussi, mais ma fille n'a pas participé à ce projet, mais je veux dire, c'était vraiment une histoire familiale. Et là, au niveau freudien, on cochait toutes les cases, hein, je veux dire, allons-y franchement. Et là, mon père, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu s'effondrer en larmes. S'effondrer, c'est peut-être pas le terme, mais il a vraiment fondu en larmes, et je vois rarement mon père pleurer, ou je crois que je n'avais jamais vu mon père pleurer, peut-être pour l'enterrement de sa mère, mais et là, il est venu me voir à la fin de la lecture. Je me souviens très bien de ce moment où il me dit, quand tu veux, on en parle. Et moi, c'était pas du tout vindicatif, je vous assure, c'était juste une protection supplémentaire. Je lui ai dit, non, j'ai plus besoin d'en parler. J'ai écrit dessus, maintenant j'ai plus besoin d'en parler. C'était un peu dur, mais c'était vraiment ce que je ressentais.
Ouais. Alors, il l'a mal reçu?
Non, parce que là, à ce moment-là, le cheminement était fait, il avait compris ce que ça avait représenté pour moi, et lui, à son tour, respectait mon besoin de silence. Enfin, c'est marrant, hein.
Cinq ans plus tard,
il me dit, je vais écrire sur la guerre d'Algérie. Et je lui dis, c'est génial. Il avait déjà, là, on était en 2021, bon, il avait déjà un certain âge, et je lui dis, c'est génial, c'est parfait, vas-y. Et il me dit, mais non, c'est toi l'écrivain de la famille, donc c'est toi qui vas l'écrire. Je lui dis, non, rien du tout, débrouille-toi, fais ton travail, moi j'ai fait le mien. Et il a un peu roumégué, comme on dit chez nous dans le sud, et il a quand même fait. Et quelques semaines plus tard, il m'a envoyé ce texte très très beau, très sobre, très sans pathos, factuel. Voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé en Algérie, voilà ce qu'on m'a fait faire, voilà ce que j'ai refusé de faire. Et j'ai trouvé ça magnifique de simplicité. Il fanfaronne pas, on n'est pas dans le spectacle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites encore, mais c'est pas grave. Il a fait cette démarche et mon fils a illustré, s'est penché sur la question, a voulu illustrer ce propos qu'on avait prévu au départ de publier à compte d'auteur, et il a tapé dans le stock. Mon fils est photographe, il faut quand même que j'explique ça aussi. Son métier, c'est la photo, et il a pioché dans le stock de photos de l'armée de son grand-père, et il a découvert son grand-père plus jeune que lui, parce que mon père avait 19 ans quand il est parti. Mon fils avait déjà 25-26 ans à ce moment-là, et il a découvert son grand-père en tenue de combat, en train de crapahuter dans les Aurès, quoi. Donc ça l'a marqué. Il en a fait un projet artistique. Vous allez vous le raconter, je garde ça pour plus tard.
Parce que vous avez vu l'émission, elle est en trois temps, et j'ai choisi pour être vraiment très sensible.
C'est ça, c'est le moment où mon père a publié ce texte-là, enfin a produit ce texte-là, et après, j'étais très fier de
parler de Jules, parce qu'il y a vraiment de belles photos et d'un travail artistique, et très heureux aussi, familialement, j'imagine, dans cette création.
Bien sûr.
Vous m'autorisez à lire quelques lignes
de votre père ? Je vous en prie, avec plaisir.
Alors la séquence dans le livre de votre père est donc qui raconte de Boudjima à la Kabyle à Huissendé l'Algéroise, janvier 1960, décembre 1961. Dans quelques mois, fin décembre 2021, il y aura 60 ans que je suis revenu d'Algérie. J'ai donc débarqué le 30 décembre à Marseille, assez tôt dans la matinée. En bas de la passerelle du ville d'Alger, m'attendaient mes parents, accompagnés de Jacotte. À peine habillé en civil, j'étais pris dans le tourbillon familial. Nous devions assister aux doubles fiançailles de mes cousins Poitou, Jean-François et Anne-Marie. Voilà, juste quelques lignes pour situer son retour. Revenons à l'Algérie.
Jacotte, c'est ma mère, je précise.
Voilà. Jacotte est votre mère. Un peu plus loin. J'ai ouvert mon livret militaire pour m'aider dans l'écriture de ces pages. Je m'aperçois aujourd'hui que mes différents responsables hiérarchiques m'avaient plutôt bien noté. J'ai été nommé brigadier dès février 1960, brigadier chef le 1er juin, maréchal des logis à peine 3 mois en septembre. De ma classe, la 59-2A, j'ai été le premier à être nommé sous-officier. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune explication à fournir. Un bon petit soldat. Il est en Kabylie maintenant. Ce que je retiendrai de mon séjour en Kabylie de janvier 60 à mars 61, quelques réflexions et réactions très personnelles. Pas de problème particulier marquant à relever, entre appeler, malgré la promiscuité, le manque de confort, le danger toujours présent, nous portions notre arme en permanence. L'éloignement de nos familles, le transistor, objet récent très utilisé. Rapport hiérarchique facile, discipline militaire allégée, nous ne saluons que le colonel et son second, pas ou peu de tenue vestimentaire réglementaire exigée, si ce n'est en faction ou en mission. Très bonne ambiance entre nous, gradés surtout, sous-officiers appelés. Nous étions 5 ou 6 dans ce cas, certains sursitaires ayant refusé les EOR. Par rapport à la population kabyle, grande pauvreté et absence d'hygiène dans le bled, j'achetais souvent savon et pain que je distribuais aux enfants autour de moi. D'autres appelés le faisaient aussi. Un jour, assis au mess, un capitaine de l'action psychologique a osé nous reprocher ses achats qui allaient faire des filles de futures prostituées. Ce même officier préconisait que les appelés forniquent avec les filles en âge de procréer pour peupler l'Algérie de demain de petits Français. Il donnait des bonbons aux hommes qu'il accompagnait afin qu'il les distribue aux enfants croisés dans les douars et les mechtas. Ces actions entraient dans le cadre de la politique de pacification. Il est au plus près de ce qu'il a vécu, là. Ça veut dire que quand il écrit à ce moment-là, les souvenirs reviennent ou... Qu'est-ce qu'il vous a dit de cette... quand il vous a restitué ce texte sensible, magnifique de son temps en Algérie pendant la guerre, votre père? Il a écrit en se souvenant où il y avait dans des tiroirs quelques bribes de ses souvenirs qui ressurgissaient?
Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui. C'est encore la pudeur qui nous a... Je ne lui ai pas posé de questions, il ne m'a pas expliqué sa démarche, mais je vois bien à la lecture de ce texte, déjà la chronologie est très très respectée. Je pense que il y avait des bribes, des petits éclats un petit peu partout qu'il a réunis, rassemblés, et je crois qu'il son souci c'était ça, c'était de garder une certaine chronologie, une certaine véracité une certaine véracité dans la narration des faits. Moi, ce qui me touche dans ce que j'entends, c'est vraiment la prise de conscience d'un gamin, parce que 19 ans encore une fois,
un appelé à 20 ans, une guerre.
Voilà, il faut bien resituer ça, et on est en 1960, c'est-à-dire que un gamin de 19 ans en 1960 n'est au courant de rien par rapport à un gamin de 19 ans aujourd'hui qui a accès à tout un flot d'informations, de discussions avec ses parents, le système scolaire a changé. Bon, là, il était dans une dynamique familiale où on taisait tout, il y avait beaucoup de non-dits, il avait suivi une éducation jésuite. Enfin, pour vous dire que ce gars qui est envoyé en Algérie à ce moment-là n'a aucune arme. intellectuel, je dis pas qu'il est bête, hein, je dis, il n'a pas d'armes intellectuelles ou culturelles pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Et il y va avec son cœur. Bah, il voit des gens qui ont pas de savon, il achète du savon, il leur offre, quoi. Et ça c'est merveilleux mais quand même, la réflexion de son supérieur qui, bon, voilà, le truc dégueulasse, il arrive à percevoir, voilà, il arrive à, ouais, mais il perçoit déjà que c'est pas normal, ça, ce qu'on est en train de lui dire. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est que, il est resté quand même, puisque les préceptes religieux qu'on lui avait inculqués, qui sont ceux du catholicisme, hein, c'est d'aimer son prochain, il comprend pas qu'on lui demande de faire ça, quoi, ou de raisonner comme ça. Moi, je trouve ça admirable parce qu'il est complètement vierge, complètement naïf, mais en même temps sensible et pas idiot. Et il voit bien que, et même cette espèce d'autodérision qu'il a par rapport à sa promotion au grade de sous-off, il comprend pas. Il dit juste
bon petit soldat.
Il se reproche lui-même presque de ne pas avoir été assez actif comme Benoît Arès l'a été ou d'autres l'ont été au même moment. Mais bon, lui, il n'était pas politisé. Donc, il a fait avec ce qu'il avait. Je trouve ça très touchant.
Et ce texte-là, parce que il est long, et j'invite vraiment les auditeurs, auditrices à lire ce très beau livre, Ondes algériennes. Il est, vous, quand vous l'avez reçu, alors du coup, comment ça s'est passé? Vous avez été ému, évidemment, mais rien n'a été retouché, même si vous vous disiez non. C'est toi qui fais, c'est pas moi, mais il y avait quand même une réécriture ou un prolongement.
Alors pas de réécriture.
Parce que vous dites que, ouais. Juste pour terminer ma phrase, pardonnez-moi, juste que il y a encore des choses à dire. Vous lui aurez pas dit, il manque des trucs. Enfin, non, je sais pas.
Ouais,
l'écrivain que vous êtes, est curieux.
Alors j'ai servi de. Alors évidemment, j'ai été très touché à la lecture, surtout plus touché par ce que ça représentait comme cheminement personnel de la part de mon père, hein, d'être arrivé enfin à écrire quelque chose ou à parler, que presque par les faits eux-mêmes. Bon, ce qui m'a beaucoup plu, et j'ai reconnu mon père là-dedans, c'était la pudeur, l'absence de fanfaronnage. Il n'est pas allé nous dire j'étais un héros, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai sauvé des gens. Non, il cherche pas à en foutre plein la vue. Il veut juste expliquer pourquoi il est l'homme qu'il est aujourd'hui. Notamment quelqu'un de très très politisé aujourd'hui. Pour le coup, il a passé sa vie à prendre part aux combats syndicaux, à des causes, ben notamment la cause palestinienne, etc. Je me souviens de mon père quand j'étais jeune et qui se laissait pousser la barbe et qui disait je ne me couperai la barbe que quand la Palestine, quand les Palestiniens auront un pays. Et bon, moi déjà à 14 ans, je lui disais mais tu sais, tu devras te raser avant que ça arrive, je pense. Ouais.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Benoît Sévera, qu'il est auteur de Ondes algériennes. Ce livre est paru aux éditions La Manufacture des Livres, deux livres. Et c'est un livre à trois voix. À trois histoires, une histoire familiale, puisqu'on vient d'entendre, dans une première partie, on entendait la fiction de Benoît Sévera autour de la guerre d'Algérie et puis de tout ce qu'elle porte en lui de mémoire d'auteur, hein, puisque c'est une fiction. Et le très beau texte de Jean-Paul Sévérac, son père, qui lui a vécu la guerre d'Algérie et qui s'est enfin livré au sens littéraire, mais aussi de parole, d'une certaine manière, à son fils, lorsqu'il avait entendu une lecture de ce premier texte dont je viens de parler, de Benoît Sévérac, qui était une fiction autour de la guerre d'Algérie. On va parler maintenant, évidemment, de ce qui vous tient aussi à cœur, de Jules Sévérac, votre fils, trois générations, je le dis en commençant l'émission, c'est vraiment émouvant aussi pour moi d'en parler, parce que je trouve que c'est très beau d'avoir cette onde, puisqu'elle est plurielle, qui a traversé votre histoire et puis celle de votre père et celle de votre fils, qui, en regard sur quelques pages du livre, court ses photos et ce travail artistique qu'il a mené. Parlez-nous de comment lui s'est emparé aussi de l'histoire de son grand-père et de la vôtre.
Ben, au moment où le récit de mon père sortait et devait éventuellement être publié à compte d'auteur pour la famille, mon père lui a demandé d'illustrer tout ça. Il lui a donc donné accès à son fonds photographique. Et mon fils a découvert son grand-père en tenue de combat, plus jeune que lui, en train de crapahuter dans les Aurès. Et là, ça a fait tilt. Mais il nous a rien dit, hein. À sa façon, c'est un taiseux lui aussi, je pense. Il a profité de ça. Il a pioché dans le stock, il en a sélectionné 8 qu'il a anonymé, il a fait en sorte qu'on ne reconnaisse personne, et il a ensuite pris des photos qu'évoquaient ces photos d'origine. Et ce sont des photos qui lui ressemblent aussi, c'est-à-dire qui sont très sur les éléments, elles sont très centrées sur les éléments, le ciel, la terre, la mer, et c'est très intelligent parce que finalement c'est une belle vision de l'Algérie, la mer, le ciel et la terre, et il a les a mis en miroir avec les photos de mon père. Ce projet-là, il l'a monté, il l'a soumis à l'Institut du Monde Arabe au moment où il y a eu une espèce d'appel à projet artistique dans le cadre de l'expo Daoud de Pardon de 2022, et Jules a fait partie des 4 juniors, photographes juniors, qui ont été invités à exposer à l'Institut du Monde Arabe. Moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a...
Bravo, mon fils.
Oui, bravo, oui, bien sûr, j'étais fier de mon fils à ce moment-là, évidemment, mais c'est surtout que je me suis dit, ça valide aussi tout ce projet-là. Moi, je suis quand même retenu avec ma nouvelle par le Marathon des Mots de Toulouse, lui, à l'Institut du Monde Arabe. Moi, le récit de mon père, je vois bien, je suis assez bien placé pour savoir que c'est un beau récit, je le propose à la manufacture de livres. Et ça n'a, enfin, je veux dire, Pierre Fourniaud, qui vraiment est dans cette ligne éditoriale de la transmission, de l'héritage, etc., tout de suite m'a dit, bah, bien sûr, on publie.
Voilà une belle histoire de famille, mais j'allais presque dire une histoire qui nous appartient à tous, hein. On peut dire ça parce que quand on parle de, je l'ai dit en introduction, quand on parle de la guerre d'Algérie, allez, on appelle des historiens, allez, on appelle, etc., ceux qui ont la connaissance de ce que fut la guerre d'Algérie, puisqu'elle est nommée ainsi, mais en même temps, il y a des histoires familiales, il y a des histoires, il se passe du temps pour que les langues se délient, c'est ça aussi.
Alors, vous ne pensez pas si bien dire, parce que ce texte-là, moi, mon texte, hein, la fiction, je la lis avec un musicien, Jean-Paul Raffit, en lecture musicale, assez régulièrement, un peu partout en France, et il n'y a pas une seule fois où
quelqu'un vient vous voir à la fin.
Ouais, ça rentre en écho avec l'histoire de plein de gens. Et pas que l'Algérie, d'ailleurs, toute histoire de guerre, mais ce qui est vraiment très touchant, c'est que des harkis ou des descendants d'harkis viennent me voir, des pieds noirs ou des descendants de pieds noirs viennent me voir, des Algériens dont le père était indépendantiste viennent me voir. Tout le monde a été victime dans cette guerre. Tout le monde a perdu et tout le monde est malheureux dans cette guerre. Bon, je pense que c'est peut-être probablement le sort de toutes les guerres.
Oui,
mais là, le fait que nous, on n'ait pas appelé ça une guerre comme on aurait dû, le fait qu'on n'ait pas retravaillé là-dessus collectivement, et bien peut-être qu'il y a une douleur qui reste encore temps d'affronter, tout simplement.
Il est encore temps et il faut du temps, hein, parce que vous l'avez rappelé, dans d'autres conflits, on parlait pas, hein, 39-45, les langues se sont déliées longtemps après, dans tous les conflits, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on sait qu'un Français sur 4 a un lien avec l'Algérie quand même. Vous avez rappelé les harkis, les descendants, les jeunes issus d'immigration algérienne, comme on dit maintenant, deuxième, troisième génération, on a tous en nous quelque chose de l'Algérie. Donc c'est aussi important de rappeler que chacun à son niveau. Moi, je me souviens que sur le 17 octobre 61, un temps sur lequel à Beur FM on évoque beaucoup cette manifestation des Algériens à Paris, quand on donne la parole à des auditeurs, des auditrices pour intervenir sur ce qu'ils savaient. Alors ils racontent que on nous a jamais raconté justement le 17 octobre 61. Mon grand-père, il m'a jamais dit, c'est plus tard que j'ai su, etc. Et puis il y a des jeunes Français qui disent ça aussi. Alors que l'histoire s'est passée à Paris, et l'histoire de la guerre d'Algérie, elle est aux Français, elle est aux Algériens. Après, il y a un vainqueur, certes. En tout cas, un pays qui a choisi d'être indépendant, et il y avait une guerre pour s'y opposer. Tout ça est douloureux pour tout le monde, vous avez raison. Je pense que c'est important de rappeler ça. Mais des fictions, des récits sont importants. Sont importants pour la mémoire des gens, pour cette transmission, et je crois que c'est du beau travail. C'est
merci
une belle œuvre.
Merci beaucoup.
Voilà. En tout cas, merci infiniment d'être venu ce dimanche matin.
Non, merci à vous de m'accueillir pour parler de ça, être sur Beur FM pour parler de ça. Moi, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous, puisque vous faites allusion à une chanson tout à l'heure. On a tous quelque chose en nous de l'Algérie. Moi, je vous dirais, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Merci infiniment, Benoît Sévrac. Je rappelle le titre de votre livre, Ondes algériennes. Il est paru aux éditions La Manufacture de Livres. On va se quitter. Vous l'avez choisi avec un morceau de Rachid Taha. Vous aimez Rachid Taha ?
Oui, particulièrement. Ouais. Il me bouleverse.
On l'écoute tout de suite. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.